encore ce matin, on va encore user du privilège qu'on a, parce que c'est un privilège qu'on a, hein, de semaine après semaine, de venir entendre la parole de Dieu. C'est vraiment, on doit être reconnaissant que pour ça. Alors, si je vous nomme ce matin le nom de Thomas, à quoi est-ce que vous allez penser? Comment?
Incrédule.
Ouais. Vous autres, est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient ça? À l'esprit? OK. Il veut être sûr. Au niveau de Thomas, il y a eu beaucoup de surnoms qui lui ont été collés sur lui, là, comme justement l'incrédule. Celui qui doute, celui qui ne croit pas, celui qui soupçonne. Puis on lui a collé cette étiquette-là à cause de ce qu'il avait dit lorsque les disciples, après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans la chambre haute, une première fois, parce que la première fois, Thomas n'était pas là. Alors là, les disciples, ils disent, hey, on a vu Jésus ressuscité. Alors, lui, il a eu comme réaction, il les a précisé, il a dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, qu'est-ce qui va arriver? Si je ne fais pas ça, je ne crois pas. » C'est ça, Thomas. Alors, on a tendance à coller tous ceux qui sont incrédules. T'es un Thomas. ça ne devait pas être le genre d'homme qui se laissait convaincre facilement. Pour convaincre Thomas, pour moi, il fallait qu'on se lève assez de bonne heure. Alors, on sait que sa réputation l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. C'est que je vous ai demandé à quoi vous pensez quand vous pensez à Thomas. Ben, c'est un douteux, c'est un incrédule, c'est un gars qui ne croit pas. Mais je pense qu'il ne faut pas le mettre pire que les autres. Il ne faut pas mettre Thomas, parce qu'on sait que c'était un des apôtres, mais il ne faut pas le mettre pire que les 11 autres. Dans Marc 16, 14, on lit « Quand Jésus y est apparu aux 11 », là, il est question de 11, parce que c'est comme ça qu'on les appelait avant, les 11, parce que Judas n'était plus là à cause de son suicide. Mais quand Jésus est apparu aux 11, c'est qu'en réalité, qu'il était juste 10. Parce que la première fois que Jésus est apparu aux disciples, Thomas n'était pas là. Évidemment qu'il y en avait plus que 10, mais là, quand on parle de 10, on focus plus sur que les disciples. Sur les apôtres, comme finalement. Alors, quand Jésus y est apparu une première fois aux apôtres, sans que Thomas soit là, il leur a reproché leur incrédulité puis la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc, les apôtres étaient un petit peu comme Thomas. Alors, Thomas n'était pas pire qu'eux autres, là. La première fois, il ne croyait pas plus ceux qui avaient vu Jésus ressuscité. Alors, quand Jésus est apparu aux 10, là, Thomas, il dit, « Moi, si je ne vois pas, là, je ne crois pas. » Alors, il ne faut pas le mettre pire que les autres, là. Puis, c'était probablement un homme... beaucoup mieux ou un homme meilleur que tout ce que les récits populaires laissent entendre sur lui. Mais il y a une chose qu'on peut déduire cependant, c'est que dans ce qu'on lit de lui, à Thomas, on voit que c'était une personne plutôt négative, avec une tendance à être anxieux et angoissé, anticipant toujours le pire. Là, vous allez dire, oui, mais c'est un apôtre, il me semble qu'il n'est pas supposé. Quand on vient au Seigneur, est-ce que le Seigneur enlève toute notre personnalité? Évidemment, non. Il y avait des petites choses que Thomas devait auxquelles le Seigneur devait travailler dans son cœur, mais malgré son pessimisme et ses inquiétudes, lui, il avait tendance à voir le verre à moitié vide, alors qu'il y en a qui vont le voir à moitié plein. Puis c'est pas grave, ça. On comprend le style, le caractère puis le comportement de Metomo. Il y a des gens qui calculent peut-être plus que les autres avant de faire une dépense. C'est correct. Puis Thomas devait faire partie de cette gang-là. Un gars qui veut savoir où c'est qu'il s'en va. C'est bon? Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Jean chapitre 11, on va voir ici clairement la tendance de Thomas à focusser sur les aspects qui sont négatifs. Alors, Jean, chapitre 11, versets 1 à 16. Il y avait un homme que malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, et sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes et que malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et que Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Verset 12, les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Voyez-vous le côté négatif tout de suite de Thomas? Ben ouais, c'est ça, on va aller mourir avec lui. Alors, dans ce qu'on vient de lire, Jésus apprend par un message de Marie puis Marthe que leur frère Lazare est malade. Puis dans leur message, les deux sœurs spécifient « celui que tu aimes » comme un argument spécial pour le presser de venir parce que ça presse. « Lazare, notre frère, est mort. » Alors, curieusement, Jésus, il va retarder délibérément, et le temps qu'il va prendre pour retarder, mais ça va laisser le temps à Lazare de mourir. Parce que là où ce que Jésus était de l'autre côté du Jourdain, puis pour se rendre en Béthanie, qui était environ à 3 kilomètres de Jérusalem, ça prenait plus qu'une journée. Parce qu'on sait qu'en ce temps-là, les voyages, ça se faisait soit en bateau s'il fallait traverser un cours d'eau ou à pied. Souvent, les gens qui n'étaient pas que fortunés, là, il n'y avait pas des chevaux et des armes, alors c'est qu'ils marchaient à pied. Alors, ça prenait une journée pour se rendre où ce que Lazare était. Donc, une journée pour que la nouvelle lui parvienne au Seigneur Jésus. Quand Jésus est arrivé à Béthanie avec 2 jours de retard et une journée de trajet, ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Puis Jean, chapitre 11, verset 17, nous confirme ça. Jésus étant arrivé trouvèrent que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours qu'il est mort. Verset 6, c'est sûr que Jésus était déjà au courant. Jésus étant omniscient, il sait exactement quand Lazare est malade et quand Lazare meurt, c'est-à-dire. Il sait tout ça, lui-là. Alors, au verset 6, on lit, « Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans ce lieu où il était. » Pourquoi? Pourquoi retarder lorsqu'on sait qu'il y a un besoin urgent? Les sœurs viennent de dire à Jésus, « Celui que tu aimes, Lazare, est malade. » Alors, Jésus n'a rien appris, là. Il sait qu'il est malade, il sait qu'il va mourir aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on retarde lorsqu'on sait qu'il y a un besoin urgent? Le verset 5 dans Jean 11 nous donne la réponse. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Est-ce que c'est ça qui a motivé le fait que Jésus a retardé avant de me rendre là? Parce qu'on comprend ça, que Jésus aimait les sœurs puis le frère. On comprend ça très bien. Mais pourquoi retarder pour se rendre là? Bien, le délai de Jésus, c'est en réalité justement une preuve de son amour. Parce que ultimement, la bénédiction qu'ils vont recevoir quand Jésus va ressusciter Lazare des morts, c'est pas mal mieux que s'il fait juste le guérir. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est pas mal plus, je dirais pas spectaculaire, mais ça frappe beaucoup plus de ressusciter un mort que de guérir un malade. Non?
Oui.
Bon. Alors ça, c'est probablement la raison pourquoi Jésus a retardé. Il y avait un but dans ce retard-là. Au verset 4, on lit que Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et du même coup, ça contribuait à fortifier leur foi. Parce qu'au verset 40 du même chapitre, dans Jean 11, Jésus il a dit à Marthe ou Marie, attendez un petit peu que je vérifie, là. Jésus a dit à Marthe au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Et au verset 45, « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et inévitablement vers Marthe aussi, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. » Alors, la raison qui fait que ça a pris du temps avant que le Seigneur se rende, c'est qu'il y avait une œuvre à faire pour que les croyants, les disciples, ceux qui avaient confiance au Seigneur Jésus-Christ, aient une confirmation de ce que Jésus disait être. Je suis le Messie, le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé pour sauver les êtres humains du péché. Alors là, le message qu'il allait livrer, avec des actions de même, ça collait. Ça collait pour ceux qui croyaient. Parce que ceux qui ne croient pas, là, vous avez beau faire la plus belle gymnastique, ils ne croiront pas plus. Malheureusement. Alors, ça a justement été ça le but des miracles de Jésus, fortifier la foi des croyants, authentifier ses déclarations lorsqu'il disait être le Fils de Dieu puis le Messie, et puis glorifier son Père. C'était toujours ça le but des miracles lorsque le Seigneur Jésus-Christ en faisait un. Puis d'ailleurs, vers la fin du chapitre 20 de Jean, tourné dans Jean 20, Jean, il nous donne les objectifs, les buts, puis la raison pourquoi il avait écrit sa lettre. Jean 20, verset 31, c'est écrit, « Mais ces choses, c'est-à-dire toute la lettre qui vient à décrire, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Vous ayez la vie en son nom. Alors, le but de l'écriture de Jean, lorsqu'il a écrit son évangile, le but, c'était justement, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Mais quand je parle de croire, que vous croyez, c'est pas croire uniquement qu'il y a un seul Dieu. Parce que Jacques, il nous le dit, ça. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ben les démons aussi croient ça. Puis ils tremblent. Alors, la raison pour laquelle Jean avait écrit sa lettre, c'est que vous croyez, croire dans le sens de mettre toute sa confiance en lui. C'est ça. Quand Jean parle de croire, c'est ça qu'il veut dire. Il faut que tu mettes toute ta confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et que tu réalises que de toi-même, tu ne peux rien faire pour être sauvé ou pour te sauver, encore moins. Alors, dans son évangile, Jean y relate 8 signes ou 8 miracles, toujours avec ce même but-là, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans Jean 2, le premier miracle que Jésus y fait dans Jean, c'est dans Jean 2, Jésus change l'eau en vin. Qu'est-ce que ça a eu comme résultat, ça? Bien, ses disciples ont cru en lui au verset 11, Jean 2, 11. Ses disciples, après avoir vu, parce qu'eux savaient très bien que c'est de l'eau qui avait été puisée, puis lorsque le coordonnateur du repas, il goûte à ça, puis il dit « Hey, c'est du bon vin, ça! » Bien, ceux qui avaient amené l'eau savaient très bien ce qui se passait. Alors, ils ont cru en lui. Une des raisons pourquoi Jésus faisait ce miracle-là. Jean 4, Jésus guérit le fils d'un officier. Alors, Jean 4, 53, on lit « Il crut », c'est-à-dire le père du fils a cru, lui et toute sa maison. Encore, le but du miracle, c'était pour que les croyants, ça renchérit encore leur foi qu'il y avait dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 5, Jésus guérit un boiteux à la piscine de Bethesda. Jean 6, Jésus nourrit 5000 hommes. Résultat, au verset 14, Jean 6, 14, on lit « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ça, c'est l'impact que ce miracle-là a eu. Hey, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus n'a jamais fait de miracle pour épater la galerie. Jamais, jamais. Dans certains milieux évangéliques, il y a plusieurs années, c'est comme ça que ça marchait. On recherchait des miracles pour le show. Excusez-moi, là, mais c'était ça, pour le show. Alors que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait aucun miracle pour le show. Le but de ces miracles, c'était afin que vous croyiez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça fait 3 fois que je le répète, là, parce que c'est de la plus haute importance. On a vu aussi dans Jean 6 que Jésus marche sur l'eau, il calme la tempête. Dans Jean 9, Jésus guérit un aveugle de connaissance. Puis au verset 38, on lit dans Jean 9, 38, après que l'aveugle ait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il lui dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Parce que Jésus, ayant appris qu'il avait été chassé, l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Il n'avait jamais vu de sa vie, ce gars-là. Il voit le Seigneur Jésus-Christ, puis le Seigneur, il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Tu n'as jamais rien vu, mais là, tu viens de voir celui qui est le Fils de Dieu. » Et le verset 38, et il dit, « Je crois, Seigneur, et il adora. » Pour son cas précis, le miracle avait été dans le seul et unique but que cet homme-là croit. Jean 9, Jésus, ah non, Jean 11, c'est-à-dire Jésus, comme on vient de lire, il ressuscite Lazare. Puis Jean 21, Jésus provoque une pêche abondante. Toute la raison de ces miracles-là, c'était la même. Croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on ait la vie en son nom. L'Évangile, c'est simple, hein? Il n'y a rien de plus simple que l'Évangile et il n'y a rien de plus compliqué lorsqu'on ne veut pas croire. Alors, quand les deux jours d'attente sont terminés, Jésus annonce à ses disciples au verset 7, « Retournons en Judée. » Alors, la réaction des disciples démontre qu'ils trouvaient ça complètement insensé et illogique. Ça n'avait pas de bon sens que le Seigneur veuille retourner en Judée, parce qu'ils savent très bien que l'animosité des Juifs de Jérusalem envers lui était si forte que ça risquait encore de se terminer par une lapidation. Mais il va mourir. Il s'en va là, il va mourir. Alors, dans plusieurs discussions que le Seigneur avait eues avec les Juifs de Jérusalem, entre autres dans Jean 8, je vais tourner, Jean 8, 58, Jésus avait déjà dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ça aux Juifs. Verset 31. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors, mettons que Jésus n'avait pas une grosse poignée de chums à Jérusalem. Aussitôt qu'il ouvrait la bouche, qu'il s'adressait aux Juifs, aux incroyants, aux Juifs qui ne croyaient pas qu'il était véritablement le Fils de Dieu, aussitôt qu'il ouvrait la bouche pour dire quelque chose, le réflexe premier, c'était de prendre des roches puis de le lapider. Mais curieusement, il se faufilait, Seigneur, il s'en allait dans ça, puis il n'y avait jamais de problème. Parce que ce que les disciples ignoraient, c'était que malgré le fait que les Juifs cherchaient à se saisir du Seigneur, et personne ne pouvait mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. C'est la raison pourquoi Jésus pouvait se sortir de ces situations-là sans aucun mal. Parce que son heure n'était pas encore venue. Ce n'était pas encore le moment prévu dans le plan et l'horaire que de Dieu. Quand Jésus est venu au monde, le jour de sa mort était déjà clairement déterminé. Il devait mourir lors de la Pâque juive parce que c'est lui qui représentait l'agneau pascal. Il ne pouvait pas mourir autrement que ça. Donc, après son annonce de retourner en Judée, les disciples n'avaient aucun intérêt pour y aller. Dans Jean 11, 8, on lit ça. Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Sauf que Jésus est déterminé, puis il leur explique au verset 9. Il dit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Ce qu'il veut dire ici, c'est que puisque le Seigneur Jésus-Christ marchait en parfaite obéissance à la volonté de son Père, il n'y avait donc aucun risque qu'il soit tué avant le moment prévu. Il serait préservé jusqu'à ce que son œuvre soit accomplie. Alors, le Seigneur avait un plan. Il a été obéissant au plan que de Dieu jusqu'à ce qu'il soit crucifié sur cette croix. Alors, il a pu donner sa vie. Il n'y a rien de fait au hasard avec Dieu. Et dans chacune de nos propres vies, il n'y a rien qui est fait au hasard non plus. Oui, mais les accidents, ça arrive, ça. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Moi, j'ai connu un frère à la baie, dans le coin de Meshikoutimi, là, qui a fait de la moto il y a une couple d'années. Il a fait un accident, il est devenu paraplégique. C'est-à-dire que maintenant, il est en chaise roulante, il a mis ses bras, mais il a plus marché. Et lui-même va être le premier à vous dire, c'est pas un accident. La volonté de Dieu s'est accomplie. Lorsqu'il nous arrive une tuile sérieuse qui nous tombe là, sur la tête, là, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce que Dieu vient de manquer le détour? Pour moi, Dieu, il s'est trompé ce coup-là. Ça ne marche pas, là. Je marchais, moi, il y a 2 semaines. Je ne marche plus. Je ne suis plus capable. C'est quoi qui s'est passé? On n'a pas des réponses à tout, mais le Seigneur est toujours en contrôle. Est-ce que vous croyez ça? Le Seigneur est toujours en contrôle. Peu importe ce qui arrive. Il est toujours en contrôle. Là, il faut que je cherche où est-ce que je suis rendu. Là. OK. Alors, après ça, Jésus apprend à ses disciples qu'il veut retourner à Béthanie et ressusciter Lazare puisqu'il est mort. Là, pouvez-vous vous mettre 2 minutes dans la peau de mes disciples? Qui c'est qui nous dit? Lazare est mort. Venez-vous-en, on s'en va le voir, c'est à Béthanie. Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est mort. Alors, se tenir dans ce temps-là avec le Seigneur Jésus-Christ, ça devait être du joliment flippant des bouts. Là. Il ne devait rien comprendre, mais le Seigneur dit, allons à Béthanie. Oui, mais ils vont tous lapider. Allons à Béthanie. Alors, personne ne lui demande comment ça qu'il était au courant de ça, parce qu'ils savent qu'il parle avec une pleine autorité, puis il n'y a personne qui a osé le questionner. Verset 15, Jésus dit, « Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » C'est clair que si le Seigneur n'était pas heureux lorsqu'il dit ça, du fait que Lazare, son ami, soit mort. Mais il était heureux de ne pas avoir été à Béthanie quand c'est arrivé. Parce que s'il avait été présent, Lazare ne serait pas mort. Nulle part dans le Nouveau Testament, il est mentionné qu'une personne est morte dans la présence du Seigneur Jésus. Ça n'a jamais arrivé. Le Seigneur qui est source de vie, il n'y a personne qui mourait autour de lui. Il pouvait arriver dans un endroit où il y avait déjà un mort. Alors, les disciples allaient être témoins d'un plus grand miracle qu'une guérison. C'est ça qu'on lit au verset 15. Le verset 15, plutôt, nous donne un élément qui renchérit tout le passage. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. À cause de vous, afin que vous croyiez. La résurrection de Lazare était destinée à affermir la foi des disciples. Après tout ça, verset 16, là on voit ce qui distinguait Thomas des autres. Son pessimisme, allons aussi afin de mourir avec lui. Mais c'est un pessimisme héroïque. Il est peut-être pessimiste, mais il y a du guts pareil. Seigneur Jésus-Christ s'en va, il est convaincu, Thomas, il est convaincu qu'en s'en allant là, il va mourir. Bien, moi, j'y vais aussi. Allons-y tous, afin de mourir avec lui. Si c'était ce que le Seigneur était déterminé de faire, bien, Thomas était aussi déterminé à aller mourir avec lui. Alors, il faut admirer son courage. Puis, l'amour profond que Thomas avait pour le Seigneur nous est démontré aussi dans Jean 14. Si vous voulez tourner là. Jean 14. Jean chapitre 14, les versets 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Alors, encore une fois, on remarque son pessimisme. En réalité, ce que Thomas dit, c'est « Tu t'en vas, on ne pourra jamais aller où tu vas, on ne connaît même pas le chemin. Si on meurt toute la gang ensemble, on va tout être ensemble. Mais si tu pars, comment allons-nous te trouver? On ne sait même pas comment s'y rendre. » Ça, c'était la façon de voir de Thomas. Thomas, il dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Alors, encore une fois, on remarque son pessimisme. Thomas, c'était un homme dont la relation avec Christ était tellement forte qu'il n'a jamais voulu être séparé de lui. Il avait un cœur brisé, attristé, désolé, lorsqu'il entendait le Seigneur parler de son départ. Puis ses pires craintes allaient se réaliser parce que Jésus, il vient de lui dire qu'il allait s'en aller. Donc, il allait mourir. Mais pas lui, Thomas. Alors, Thomas, c'était un individu sensible, mélancolique, stressé, mais attaché à son Seigneur. Il l'aimait de tout son cœur. Si lui s'en va mourir, moi, je m'en vais mourir avec lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme-là, Thomas? Tout ce qu'on vient de voir nous démontre quelle sorte de personne et quelle sorte de personnage Dieu utilise. On a vu que dans les apôtres, il y avait Pierre, un leader né, un fonceux. Il y avait un Thomas, un incrédule, si on veut, un gars qui était dur à convaincre. Alors, il y avait toutes sortes de gens. Alors, Dieu utilise qui il veut. Une grave erreur que souvent on peut avoir tendance à faire est celle de se comparer aux autres, puis de dire, bien, puisque je ne suis pas comme un tel ou une telle, je ne peux pas être utile pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit ça, là. Ça se peut. Ça sera même légitime. La tendance naturelle, c'est de se comparer aux autres. S'il y a quelqu'un qui a du succès, on a tendance à vouloir se comparer à lui, ce qui n'est pas une excellente idée. La raison pourquoi je vous dis ça, Dieu ne récompense pas selon la grandeur des dons qu'il a accordés à ses enfants, mais selon la mesure de fidélité que les enfants ont eue envers ce qu'ils ont reçu. Je vais à répéter, parce que ça vaut à peine. Dieu ne récompense pas selon la grandeur des dons que ses enfants ont reçus, mais selon la mesure de fidélité qu'ils ont envers ce qu'ils ont reçu. Dans la parabole des talents de Matthieu 25, vous vous rappelez tous de cette parabole-là, là, au verset 15, on lit que le maître donna... Il y a un maître qui va s'en aller en voyage, puis là, il donne 5 talents à un de ses serviteurs, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et il y a un petit bout qui est rajouté à la fin, à chacun selon sa capacité. Alors, en confiant à chacun selon ses capacités, le maître ne s'est pas trompé. Jamais le Seigneur, puis ça revient à ce que Paul il nous disait tantôt, puis je trouvais que c'était bien expliqué aussi, jamais le Seigneur va confier des responsabilités qui sont au-delà des capacités intellectuelles ou spirituelles d'une personne. Il nous a dit ça quand il nous a parlé des futurs diacres qui vont être, ou du futur diacre, ou de la future diaconesse qui va être appelée à remplacer notre frère Kédenis. Dans la parabole, l'homme aux deux talents vient vers son maître avec autant d'assurance puis de joie que celui qui en avait reçu cinq. Celui qui a reçu cinq talents, qu'est-ce qu'il dit? Voici, Seigneur, je t'en ai fait profiter là, de cinq autres. Et le maître, qu'est-ce qu'il dit? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait deux, il vient avec le même enthousiasme. Et le maître, qu'est-ce qu'il lui dit? Exactement la même chose que ce qu'il a dit à celui qui en avait eu cinq. Matthieu 25, je vais vous le lire parce que ça va à peine. Matthieu 25, verset 21 et verset 23. Et si vous regardez dans vos Bibles, le verset 21 est identique au verset 23, mais il ne parle pas de la même personne. Le verset 21, c'est celui qui a rapporté cinq talents. Le verset 23, c'est celui qui en a rapporté deux. Mais les deux reçoivent les mêmes félicitations. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ce n'est pas la sorte de don qui est important. Luther ou Darby ou mais peu importe qui, des hommes qui ont été reconnus dans le monde évangélique comme étant des colonnes, pensez-vous qu'ils vont être plus récompensés que le petit pasteur dans une église dans le fin fond d'une campagne qui a été fidèle à amener ses messages semaine après semaine? Il va-t-il être plus considéré que ces hommes-là? C'est la même chose. Ce qui les distingue, c'est leur fidélité. Darby puis tous les hommes de Dieu qui ont été fidèles vont être considérés au même titre que le petit pasteur dans une petite église, dans une petite campagne. S'il a été fidèle, ça va être la même chose. On vient d'en avoir une preuve ici. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, c'est ça qui compte. Ce n'est pas la façon dont tu t'exprimais en chair qui compte. C'est ta fidélité à préparer tes messages, à prier pour ceux pour qui tu allais prêcher. C'est ça qui compte. Alors, c'est bien bon et fidèle serviteur. Alors, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il y a quelqu'un qui me disait qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de nous, et c'est très vrai. Mais avez-vous pensé au privilège qu'il nous accorde d'être à son service? Tout un privilège. Parce qu'en plus, on lit dans 1 Corinthiens 3, verset 14, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Alors, il récompense tous ceux qui, de bon cœur, vont accomplir sa volonté. Si l'œuvre bâtie sur le fondement, on sait c'est qui le fondement? La pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si l'œuvre subsiste, c'est-à-dire demeure, dure, persiste, il va avoir une récompense. Alors, le statut social, l'origine familiale, c'est d'aucune importance. La seule chose qui nous est demandée, c'est le désir de reconnaître notre état de pécheur, notre besoin de la grâce de Dieu et d'être fidèle. Ce que Dieu demande des dispensateurs, c'est que chacun de nous soit trouvé fidèle. C'est ça qui compte. C'est juste ça qui compte. Et c'est tout ça qui compte. Alors, malgré les points négatifs qu'on a pu soulever dans le caractère de Thomas, il est le seul à avoir prononcé probablement la déclaration la plus profonde jamais sortie de la bouche d'un apôtre lorsqu'il a vu le Seigneur ressuscité. Il a dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a pas d'autres apôtres qu'on lit dans les Écritures qui ont prononcé cette phrase-là. Thomas déclare sa croyance ferme dans la résurrection et la divinité de Jésus. Il vient de confirmer ce qu'on voit à la fin, ce qu'on a vu tantôt dans Jean, là. Le but pour lequel Jean avait écrit son livre, c'est que vous croyez Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On ne sait pas trop si vraiment Thomas a mis sa main dans le côté du Seigneur. Selon Jean 20, verset 24, probablement que oui, lorsque le Seigneur est dit, ben, je vais vous le lire, Jean 20, verset 24. Thomas appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, ce que je vous ai dit tantôt, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, la foi de Thomas n'était peut-être pas celle qui plaisait le plus au Seigneur. C'était une croyance basé sur la vue. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est qui ça? Exactement. Heureux sommes-nous parce que nous, on n'a pas eu besoin de voir ce que Thomas a vu pour croire. C'est un privilège incroyable. Ça prend de la foi. Ça prend de la foi pour croire quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais cette foi-là vient de qui? C'est Dieu qui nous a donné cette foi-là. Et à cause de cette foi-là, on a cru en lui. Et maintenant, on est heureux. Parce qu'on se repose sur ce que lui a dit. Quelqu'un a déjà dit que Thomas a reconnu la divinité qu'il ne voyait pas à travers les blessures qu'il voyait. Ça, c'est comme un petit peu plate pour lui, là. Mais c'est ça, lui, qui a stimulé sa foi. Mais il reste une chose, non? C'est que Thomas a véritablement cru. Au même titre que nous aussi, sans avoir vu, on peut croire. Alors, une dernière application à tirer, c'est le temps. Il y en a qui peuvent penser que s'ils pourraient avoir un miracle ou un signe précis, là, ils croiraient. Vous avez déjà entendu ça, hein? L'histoire de l'homme riche et Lazare dans Luc 16, je vais vous le lire. Dans Luc 16, ça nous confirme que c'est faux. Luc 16, verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'il les écoute, et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Alors, ça ne prend pas des miracles pour que quelqu'un... Ben, c'est-à-dire que le Seigneur, il faisait des miracles pour que ceux qui étaient proches de lui, ceux qui avaient déjà une confiance en lui, que leur foi soit encore consolidée. Mais ce n'est pas par des miracles qu'il y en a qui vont changer d'idée. On vient de le voir. Là. On a toutes les preuves nécessaires dans la parole de Dieu et dans le témoignage des croyants pour qu'on puisse croire. Je termine avec Jean 3, 36. Quand je vous disais tantôt, il n'y a rien de plus simple que le salut. Il n'y a rien de plus compliqué que le salut non plus. Mais regardez ce qu'on lit dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu crois ou tu ne crois pas. Aussi simple que ça. Mais les conséquences de ne pas croire font en sorte que la colère de Dieu va demeurer sur toi parce que tu n'as pas cru que la colère que tu méritais est tombée sur celui qui ne la méritait pas, c'est-à-dire son Fils bien-aimé. Alors que le Seigneur nous aide à serrer ces paroles-là dans nos cœurs et qu'on apprécie l'œuvre de salut qu'il a opéré dans nos vies, qu'on apprécie le fait qu'il nous ait donné la foi pour qu'on croie. Prions. Seigneur grand Dieu, encore une fois, on est tellement heureux d'avoir pu sonder en partie les Écritures que tu nous as laissées. Merci de nous aider à comprendre la profondeur, une partie de la profondeur du salut que tu nous as donné. Merci de nous avoir donné la foi. Merci de nous avoir sauvés. Amen.